Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la géopolitique du climat en ce début de conférence de Paris, dite COP21, qui se tient jusqu'au 11 décembre. Le but de ce sommet, aboutir à un accord liant tous les pays du monde afin d'empêcher que la planète ne se réchauffe au-delà de 2 degrés Celsius par rapport au 19e siècle, un niveau au-dessus duquel les chercheurs s'accordent à dire que l'humanité s'expose à des risques d'emballement non maîtrisables du climat. En 2009, un sommet équivalent à Copenhague avait été échoué, bloqué par la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Ces deux États ont depuis passé un accord sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La conférence de Paris s'annonce fondamentale pour la lutte contre le réchauffement de la planète, mais les résultats à attendre du fait des engagements des pays semblent se situer en deçà de ce qui serait nécessaire. Nos invités, Amy Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS, co-auteur avec Stéphane Écoute de Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales aux presses de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Armelle Lecomte, spécialiste climat et énergie, porte-parole d'Oxfam. Bonjour.
Bonjour.
Et François Gemène, chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po, à l'Université de Liège en Belgique, à Versailles-Saint-Quentin, auteur de Géopolitique du climat aux éditions Armand Collin et directeur de L'enjeu mondial, l'environnement aux presses de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Cela fait donc 20 ans que le processus des négociations climatiques et les conférences annuelles des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques réunissent des représentants de 196 pays et mobilisent un nombre considérable d'acteurs et de forces variées. Autant dire que l'investissement humain, financier, politique déployé autour de cette gouvernance est immense. Pourtant, à ce jour, le bilan est très maigre. Comment se présente cette COP21 à Paris? Quels sont les risques de voir cette conférence être affectée par les attentats de Paris, Amy Dahan?
Je crois que l'atmosphère des attentats, etc., va peser incontestablement sur la liberté de circulation, la mobilisation de la société civile, etc. Peut-être aussi un peu dans les relations vis-à-vis du gouvernement français, c'est-à-dire qu'il y a des relations, de solidarité vis-à-vis de ce gouvernement et de l'État français qui a été atteint il y a une dizaine de jours, terriblement. Mais finalement, je crois que les enjeux fondamentaux des négociations, eux, ils restent les mêmes. Et je ne pense pas qu'un certain nombre d'issues de la conférence soient fondamentalement déplacées par la question des attentats.
Ça ne risque pas de détourner finalement les sujets et de placer les priorités ailleurs, éventuellement, Armelle Lecomte?
Non, je partage exactement ce qu'a dit Madame Dahan, dans le sens où effectivement la France a été attaquée, donc on peut s'attendre peut-être dans les relations diplomatiques à un peu plus d'empathie, en tout cas dans les discours qui vont pouvoir avoir lieu. On a appris aussi que Madame Tubiana a eu l'appendicite il y a quelques jours, elle a tweeté, l'a dit, donc voilà, ça rajoute un peu ce sentiment d'empathie vis-à-vis du gouvernement français. Après, finalement, pour le cœur des négociations, je ne pense pas que les attentats vont fondamentalement changer les rapports de force qui ont lieu. Mmh. Et finalement, l'impact le plus fort, c'est la mobilisation de la société civile, puisque les grandes marches qui devaient avoir lieu ont été interdites par les autorités. Donc voilà, la société civile maintenant doit faire preuve de créativité pour continuer à mobiliser le grand public, parce que pour la société civile, il est important de dire qu'il ne peut pas y avoir de COP sans mobilisation des ONG et du grand public. Donc c'est là qu'il va falloir effectivement trouver d'autres alternatives pour faire entendre notre voix.
Alors manifestation interdite parce que prolongation de l'état d'urgence. François Gemène.
Je suis d'accord aussi qu'il me semble qu'il va y avoir effectivement une plus grande vague de solidarité avec le gouvernement. Et d'ailleurs le nombre de chefs d'État qui ont annoncé leur présence à la COP a augmenté à la suite des attentats. Là où je pense que les attentats peuvent avoir un impact important sur la négociation, c'est dans l'agenda médiatique. C'est une négociation qui se passe sans sanction. Et finalement, la seule sanction, c'est celle de l'opinion publique, c'est celle de l'électeur. Et si l'attention du public et des médias est détournée sur les attentats, loin de la COP, à ce moment-là, on peut négocier dans une bulle et on peut négocier n'importe quoi. Et c'est là où je pense qu'il est très très important que la société civile et la population dans son ensemble puissent se reconnecter avec la négociation, puissent faire pression sur les négociateurs. Sinon, si on est loin de l'opinion publique, si on est loin des électeurs, des populations et loin des réalités, on peut négocier n'importe quoi dans sa bulle. D'ailleurs, au G20 en Turquie, qui a eu lieu immédiatement après les attentats, il y a eu un recul très important avec l'Inde et l'Arabie Saoudite qui ont refusé le principe d'une révision tous les 5 ans de l'accord. C'est un recul très très important. Personne n'en a évidemment parlé, et c'est le moment qu'on choisit évidemment l'Inde et l'Arabie Saoudite pour annoncer cela, parce qu'ils savent bien que ça passerait complètement en dessous des radars.
Donc impact, c'est ça qu'il faut entendre, François Gemène, quand vous parlez de cette déconnexion entre les organisations non gouvernementales, tous les acteurs non étatiques de cette conférence. C'est là que
il faut absolument connecter la négociation à la réalité des impacts du changement climatique qui sont déjà une réalité, et à la réalité aussi de ce que veulent les gens et de ce que veulent les populations. Il y a un vrai déficit démocratique dans ces négociations.
Alors, Ami Dahan, pour ce qui est donc de cette COP21, comment se présente le panorama? Quel est le spectre des attitudes politiques des principaux États ou groupes d'États et de quoi va-t-on discuter?
Bien, et je crois que principalement, on sait que les INDC, les contributions des différents États, sont des contributions volontaires, c'est des intentions de contribution sur lesquelles on ne négocie pas. C'est-à-dire que, bon, on a essayé de faire un petit peu pression, mais on ne négocie pas dessus. Elles seront d'ailleurs dans un texte en annexe de ce qui sera adopté. Donc ça, c'est très important. Donc là, on sait aussi qu'elles ne sont pas à la hauteur du défi climatique. Ça, c'est absolument clair. Elles ne permettent pas d'être, je ne dirais même pas, dans la trajectoire des 2 degrés. Parce que cette question de la trajectoire des 2 degrés, on en reparlera peut-être, c'est quelque chose qui, en soi, est extrêmement suspect comme concept. Étant donné que la trajectoire jusqu'à la fin du siècle, vous pensez bien que énormément d'éléments économiques, géopolitiques et aussi d'ailleurs planétaires, environnementaux peuvent intervenir et infléchir les choses. Mais simplement, au moins, avoir des choses sérieuses, importantes, et qui puisse nous garantir que très vite, parce que c'est très vite qu'il faut agir, on ne peut pas attendre, on prenne des engagements sérieux. Donc là, je crois qu'il faut déjà dire ça. Donc, quelles seraient, pour moi, les 2 positions très importantes de cette négociation? D'une part, la clause de révision, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une clause de révision et comment sera-t-elle libellée et engagée?
Clause de révision, Ami Dahan, juste
ça veut
pour
dire
être clair.
Que tous les 5 ans ou tous les 3 ans, enfin à un nombre régulièrement et à intervalles relativement étroits, on scrute précisément avec une certaine transparence et un examen par des experts, etc., les engagements ou les politiques mises à l'œuvre par les pays. Sinon, on va faire ce qu'on a toujours fait dans cette négociation depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire on se retrouve chaque année ou tous les quelques années pour des conférences plus importantes que les autres et on s'aperçoit qu'on a pris une autre direction que celle dont on a parlé. Et ça, c'est très, très grave.
Alors, Armelle Lecomte et François Gemène, Armelle Lecomte.
Oui, un des enjeux de la COP, effectivement, c'est est-ce que cet accord nous permettrait de rester sur cette trajectoire de 2 degrés? À l'heure actuelle, les engagements qui sont sur la table nous mettent sur une trajectoire de 3 degrés, avec des impacts dévastateurs, notamment dans les pays en développement. Parce qu'il faut savoir que c'est les populations les plus pauvres, les plus vulnérables et surtout les moins responsables du changement climatique qui en paient le prix fort, avec des inondations, des sécheresses, des tempêtes de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Et à 3 degrés, c'est des impacts encore plus dévastateurs. Après, cette question des
3
degrés,
ça pourrait être même plus.
C'est 3 degrés si les engagements qui sont sur la table sont tous mis en œuvre, respectés par l'ensemble des 160 pays qui, pour l'instant, ont pris leurs engagements. Certains ne l'ont toujours pas fait.
Donc la question des 2 degrés, elle est déjà dépassée. C'est cela qu'il faut entendre.
La question des 2 degrés, finalement, elle a cristallisé un peu les débats, mais elle n'envoie pas un signal finalement assez clair à la communauté internationale, que ce soit le grand public ou les investisseurs, les acteurs économiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement 2 degrés? Et c'est pour ça que cette clause de révision, elle est importante pour vraiment obliger les États à remettre des engagements sur la table de manière régulière, mais c'est aussi d'avoir dans l'accord une direction donnée, ce qu'on appelle un objectif de long terme, parce que c'est aussi à ça que doit servir l'accord de Paris, et c'est de dire, au lieu de parler forcément de 2 degrés, de dire à l'horizon 2050, il faut sortir des énergies fossiles et investir massivement dans les énergies renouvelables. Et ça, c'est quelque chose qui parle aux acteurs économiques.
François Gemène.
Il y a deux enjeux qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est l'équilibre à trouver entre le niveau de participation et le niveau d'ambition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une négociation dans laquelle on ne vote pas, où tout se décide au consensus. Et le problème, c'est que souvent, on arrive à des consensus mous et on privilégie le fait de satisfaire tout le monde et de contenter tout le monde, donc avoir un très large niveau de participation, au détriment du niveau d'ambition. Forcément, puisque si vous voulez tout le monde à bord, vous vous retrouvez toujours avec le plus petit dénominateur commun, avec le plus faible niveau d'ambition. Et donc aujourd'hui, on est dans un moment où on semble se réjouir du fait que tout le monde soit à bord, du fait que tout le monde va participer, et que la grande majorité des États aient rendu leur plan climat, leur fameux INDC, en avance de la conférence. Mais la réalité, c'est que le compte n'y est pas, et que le niveau d'ambition n'est pas là. Et donc ça ne sert à rien d'avoir un accord où tout le monde est partant s'il n'y a pas un niveau d'ambition suffisant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur cette affaire des 2 degrés. On a perdu énormément de temps. En 2009, lorsqu'on décide de l'objectif des 2 degrés, c'est un compromis politique entre le possible et l'acceptable. Quelles sont les réductions d'émissions qui semblent possibles? Quels sont les impacts du changement climatique associés à ces 2 degrés qui semblent acceptables? Et à l'époque, l'hypothèse des 4 degrés, d'une hausse de la température de 4 degrés d'ici la fin du siècle, paraît comme un scénario de science-fiction en 2009, comme quelque chose de quasiment impossible à imaginer. Aujourd'hui, nous sommes 6 ans après, et l'hypothèse des 4 degrés, c'est l'hypothèse lourde. Et aujourd'hui, cet objectif de 2 degrés qui semblait pourtant à portée en 2009, ben nous l'avons gâché. On a parfois galvaudé l'expression « conférence de la dernière chance ». Copenhague, c'était la conférence de la dernière chance pour les 2 degrés, et je pense que malheureusement, cette dernière chance, on l'a gâchée.
Vous écoutez Géopolitique.
Ce que l'on constate, et avec tout ce que vous venez de dire les uns et les autres, Ami Dahan, c'est une extrême lenteur. On ne travaille pas assez vite.
Non, il est clair que ce processus onusien de gouvernance, c'est une fabrique de la lenteur, puisque chaque fois qu'il y a conflit, on ne peut pas le résoudre, on ne peut même pas véritablement identifier, je dirais, les obstructeurs du processus, parce que le consensus implique on les garde et voilà, on crée une commission qui va examiner l'année d'après, on va revoir les choses, etc., etc., d'année en année. Or, effectivement, on est dans une course de vitesse avec la dégradation du climat. Et d'autre part aussi, ce mode de fonctionnement fait que les vrais problèmes, on n'en parle pas. Par exemple, et je crois que tout le monde le sait, autour de cette table, les énergies fossiles, le mot d'énergie fossile, ne figure pas dans l'accord. Il a été expulsé du texte. Comment voulez-vous que véritablement on affronte les problèmes quand la chose la plus essentielle dans ce domaine, elle est en dehors de l'accord. Et pourquoi on ne parle pas d'énergie fossile? Parce qu'un certain nombre de pays n'acceptent pas l'idée qu'on écrive qu'à l'horizon 2050, comme l'a dit ma collègue, ou bien même 2080, il n'y ait plus d'énergie fossile. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible pour les pays qui vivent des énergies fossiles. Et ils ne veulent pas en entendre parler.
François Jemaine.
Le problème, comme le dit Ami Dahan, c'est qu'on essaye de ne fâcher personne et de contenter tout le monde. Et le résultat de ça, c'est qu'au final, on ne décide de rien et qu'on retarde la décision. Et donc moi, quand on me demande ce que j'espère de la COP21, j'espère un très grand nombre de gens fâchés, déçus, furieux, en colère contre le résultat, parce que si tout le monde est content, si tout le monde est satisfait du résultat, ça veut dire qu'on n'aura rien décidé du tout. Pour décider, aujourd'hui malheureusement, il faut faire des choix, ça veut dire qu'il faut frustrer certains intérêts, ça veut dire qu'il faut faire des mécontents, il faut que les gouvernements aient le courage de faire des fâchés et des déçus, et j'espère que à la sortie de la COP21, il y aura beaucoup de fâchés et beaucoup de déçus.
Armelle Lecomte.
Je pense que les choses le contexte a beaucoup évolué depuis Copenhague. Copenhague était présenté comme le sommet de la dernière chance, et après il sera trop tard. Et je crois que le contexte a évolué dans le sens où aujourd'hui, personne, y compris la société civile, ne dit l'accord de Paris va sauver la planète, va sauver le climat. On est à la fois réaliste, on sait que ça ne sera pas le cas, et que effectivement l'ambition n'est pas au rendez-vous. C'est ça aussi les processus multilatéraux. Si le processus s'élance, c'est aussi parce qu'il y a des pays qui bloquent, et donc cette lenteur, elle s'explique aussi comme ça, c'est que les États ont des intérêts divergents. Les pays du Golfe, par exemple, qui utilisent l'énergie fossile dans leur économie, ne veulent pas changer, d'où le blocage au G20 par l'Arabie Saoudite notamment. Un certain nombre de pays du Golfe, eux, n'ont même pas pris d'engagement en amont de la COP.
Mais après, pas seulement les pays du Golfe, il y a aussi, enfin, de toute façon, les grands producteurs de pétrole. Il y a aussi le Venezuela, pour ne stigmatiser
l'Iran,
personne.
Effectivement. Mais après, en dehors de ce processus onusien qui doit permettre de donner une direction, il y a aussi tout ce qui se passe en dehors de la COP. Et là, en 6 ans, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions positives au niveau régional, au niveau des États qui ont vraiment pris des engagements parfois forts, plus forts finalement dans leur politique nationale que ce qui peut être défendu au sein des Nations Unies.
Quelques exemples.
Vous avez des pays comme le Costa Rica qui a pris des engagements très forts pour passer à 100% d'énergie renouvelable. C'est de montrer. Et puis aussi, ce qui a changé, c'est l'essor spectaculaire des énergies renouvelables. Un essor qui a été encore plus rapide que ce que les experts attendaient il y a encore quelques années. Donc c'est de dire à la fois cette transition énergétique, elle est souhaitable si on veut éviter un réchauffement de plus de 2 degrés, mais en plus elle est possible parce que les prix des renouvelables diminuent considérablement. Pour les 1,3 milliard de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité, c'est pas en construisant une centrale à charbon que ces populations vont avoir accès à l'énergie dans les zones très reculées. Au contraire, les panneaux solaires, l'éolien peuvent apporter des solutions qui permettent de lutter contre la pauvreté. Donc je pense que c'est aussi important de garder en tête que l'accord de Paris, c'est une chose, peut donner une direction, mais qu'on ne peut pas tout attendre de cet accord et que ce que décident les États, les régions, les villes, peuvent aussi apporter des solutions.
Alors, Amine Dahan, vous le disiez, pour terminer cette première partie d'émission, et je reviens dessus, vous dénonciez le fait que on ne parle pas des vrais problèmes, et en particulier des énergies fossiles. Les obstacles, si on doit en nommer un, le premier d'entre eux, c'est un obstacle financier.
Oui, alors ça, c'est un grand sujet. Et si, à mon avis, la COP n'aboutit pas, ce qui n'est absolument pas exclu aujourd'hui, hein, on ne sait pas, ça sera peut-être aussi autour de cela. C'est-à-dire qu'à Copenhague, on a pris un engagement de donner 100 milliards aux pays en développement, dont font partie une partie des émergents, hein, pour les aider à, disons, moitié-moitié pour l'adaptation et la décarbonisation de leurs économies ou les investissements bas carbone. Bon, ces 100 milliards, tout le monde sait qu'on ne les a pas vraiment. C'est-à-dire que 60 milliards ont été identifiés dans un rapport de l'OCDE, mais ils sont pour beaucoup du recyclage de l'aide au développement antérieur. C'est pas de l'argent frais. Mmh. Et ça, les pays en développement le savent.
C'est-à-dire qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre?
Un peu, oui. C'est exactement ça. Et donc, même les 40 autres milliards, on ne les a pas vraiment. Et puis, il faut être quand même honnête, ces 100 milliards par an, c'est en dessous des nécessités pour véritablement construire des chemins de développement bas carbone. On aura l'occasion peut-être de poursuivre en analysant le cas de l'Inde. Mmh. On voit bien que l'Inde, avec ses 1 milliard 500 millions d'habitants bientôt, eh bien, elle n'a que du charbon et un tout petit peu de solaire pour le moment, mais comment va-t-elle se développer? Or, elle veut se développer. C'est un acteur extrêmement dur dans la négociation. Et ça, tant qu'on ne discute pas de ça véritablement, et là, on sait très bien que pour cette négociation, tout le volet financier, les taxes financières, les déplacements de masse d'investissement vers les questions de du bas carbone ou de la décarbonisation, eh bien, ils n'ont pas été véritablement abordés frontalement. Et on n'est pas prêt. Alors, soit ces pays, pour des raisons un peu géopolitiques, stratégiques, etc., vont accepter d'une certaine façon de faire crédit et puis de vouloir un accord à un moment donné parce que la Chine le veut, etc. Soit ils vont se raidir parce que les pays en développement les plus pauvres sont assez hostiles au fait qu'on abandonne leurs intérêts. Ils vont être les premiers à souffrir des dégâts du changement climatique. Comme l'a dit François, ils n'en sont pas responsables, etc. Eux, d'ailleurs, ils veulent même pas 2 degrés. Ils veulent 1,5 degré. Bon, on est quand même dans le divorce avec le réel complètement. Mais voilà, on comprend aussi leur position. Donc, on ne sait pas exactement comment cet enjeu financier va peser ou être en sursis pour les années à venir.
Alors, enjeux financiers dont on reparlera en démarrant la deuxième partie de l'émission avec ce rapport d'Oxfam qui évoque des sommes encore beaucoup plus importantes étant donné les trajectoires différentes par rapport à celles qui étaient établies à l'origine. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Amit Dahan, Armelle Lecomte et François Gemène dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la géopolitique du climat en ce début de conférence de Paris, dite COP21, qui se tient jusqu'au 11 décembre. Nous retrouvons nos invités. Amit Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS, co-auteur avec Stéphane Écoute de Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales aux presses de Sciences Po. Armelle Lecomte, spécialiste climat et énergie, porte-parole d'Oxfam. Et François Gemène, chercheur en sciences politiques, enseignant notamment à Sciences Po et auteur de Géopolitique du climat aux éditions Armand Collin et L'enjeu mondial, l'environnement aux presses de Sciences Po. Nous parlions, en terminant la première partie de l'émission, des obstacles qui font échopper et ralentir le processus de discussion autour des questions de climat. Amit Dahan évoquait le chiffre de 100 milliards de dollars nécessaires pour aider les pays à s'adapter. Un chiffre que Oxfam, Armelle Lecomte, je me tourne vers vous, voit largement dépassé. Vous évoquez 800 milliards de dollars par an pour financer l'adaptation, c'est le chiffre nécessaire, et l'impact pour les pays directement concernés, avec des pertes économiques annuelles de près de 1700 milliards de dollars, soit plus du double. Les 100 milliards explosent en vol, je veux dire, on est très très loin de la réalité, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure aussi Amit Dahan, avec ce divorce d'avec le réel sur les négociations.
Oui, tout à fait, en fait, ces 100 milliards par an d'ici à 2020 ont été promis par les pays riches à Copenhague, ça a été trouvé pour éviter une déroute complète, et finalement, les tensions se sont cristallisées autour de ce chiffre depuis 6 ans, parce que les pays en développement n'en voyaient pas la couleur, tout simplement. Donc il y a eu des progrès de fait cette année. La présidence française s'est un peu emparée du dossier. Il y a un rapport de l'OCDE qui dit qu'on est à l'heure actuelle à environ 60 milliards de dollars par an, donc encore loin du compte. Et seulement 16% des financements climat mobilisés à l'heure actuelle vont vers l'adaptation. L'adaptation, c'est quoi? Ça veut dire construire des digues pour lutter contre la montée des eaux, mettre en place des systèmes d'alerte météo pour prévenir les gens, avoir des évacuations en cas de tempête, c'est avoir des semences adaptées au changement climatique. Mais finalement, au-delà de ce chiffre, quand bien même on l'atteindrait, il est, comme vous dites, dépassé, parce que pour l'instant, on est dans une trajectoire de 3 degrés et c'est des coûts encore plus importants, parce que c'est un effet mécanique. Si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre suffisamment, ça veut dire un réchauffement plus important, d'où des impacts encore plus dévastateurs dans les pays en développement, et donc des coûts pour faire face à ces conséquences encore plus élevées. Et donc dans cette étude que l'on sort, on montre que avec un réchauffement à 3 degrés, c'est près de 300 millions de dollars en plus chaque année, 300 milliards pardon, de dollars par an pour faire face aux conséquences. Donc cette question des financements fait partie vraiment des enjeux cruciaux pour la COP 21, et malheureusement les négociations sur ce sujet ont été très lentes jusqu'à maintenant. Il a fallu attendre les dernières sessions de négociation à Bonn pour que les États commencent vraiment à discuter de cette question des financements et comment elle va se traduire dans l'accord de Paris.
Avant d'évoquer les positions de chacun des grands pays, ou en tout cas des grands blocs, François Gemène, un commentaire sur ces questions
Toute la difficulté des pays en développement dans cette négociation, c'est qu'ils ont relativement peu de moyens de pression, sinon au travers de l'opinion publique. Mais le problème, c'est que la perversité de la négociation, c'est que plus vous émettez de gaz à effet de serre, plus vous êtes influent dans la négociation. Or, les pays en développement qui doivent recevoir de l'argent pour l'adaptation. D'abord, aujourd'hui, on discute de l'adaptation uniquement en termes financiers, mais sans discuter du cœur et de ce que doit être l'adaptation et de ce à quoi l'argent va servir. Et donc ça, c'est un point important. Et d'autre part, les pays en développement essaient d'obtenir un maximum d'argent, mais quelque part n'ont rien à offrir en échange, puisqu'ils ne peuvent pas s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, puisque malheureusement ils en émettent tellement peu que tout le monde s'en fiche un peu qu'ils réduisent ou qu'ils ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre.
Alors, je rebondis pour avancer un petit peu dans le débat. Armelle Lecomte, rapidement, vous vouliez réagir et...
Oui, juste pour dire que dans les INDC qui ont été présentés, pour la plupart des pays en développement, ils ont présenté des contributions qui sont conditionnelles au fait de recevoir des financements. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de l'adaptation, il y a aussi le fait de se développer et d'éviter de passer par la case des énergies fossiles. Donc, c'est-à-dire de développer les énergies renouvelables. Et pour ça, ça veut dire des transferts de technologies, ça veut dire des financements importants pour les aider justement dans cette transition.
Alors, je rebondis sur ce que disait à l'instant François Jemaine. Plus vous êtes émetteur de gaz à effet de serre, plus vous pesez dans les négociations. Amit Dahan, je me tourne vers vous. Alors, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, c'est la Chine, évidemment, avec, alors je sais pas si mes pourcentages sont bons, 22,4%. Les États-Unis avec 12,2%. Et vous parliez de l'Inde, 6,1% à elle toute seule, alors que par exemple pour l'Union européenne, on est à 8,7%. Alors, comment se présentent les États-Unis, la Chine, l'Inde, Amit Dahan?
En ce qui concerne les États-Unis, vous savez très bien qu'une des contraintes de la négociation, c'est que ce qui sortira de Paris ne doit pas avoir à être présenté devant le Sénat américain. Parce qu'on sait d'ores et déjà que le Sénat ne ratifiera rien.
Majoritairement donc, républicain.
Exactement. Et ça, c'est déjà une contrainte énorme. Donc, ça implique la forme juridique de l'accord. Il n'est pas question d'avoir un protocole ou un traité. D'ailleurs, le vice-président Kerry l'a rappelé très clairement il y a quelques jours. Néanmoins, le président Obama, dans la fin de ce deuxième mandat, et puis dans la situation actuelle des États-Unis qui ont développé énormément les gaz de schiste dans les années qui viennent de s'écouler, a donné des objectifs plus ambitieux, si on peut dire, que ce qui avait été le cas, puisque en fait ils étaient quasiment pas ambitieux du tout, et il y avait très peu d'engagement de réduction à Copenhague. Tandis que là, bon, étant donné le niveau d'émissions des États-Unis, le fait que c'est le deuxième émetteur mondial, mais par habitant, c'est le premier et très largement,
par habitant,
et
oui,
très largement,
presque deux fois
celui d'un Européen ou d'un Chinois qui est à peu près aujourd'hui au niveau des Européens. Même si la Chine, il faut contrebalancer par le fait que c'est l'atelier du monde et qu'elle fabrique pour tous les pays du monde, y compris évidemment les pays développés qui consomment les produits dont les émissions ont eu lieu là-bas.
Qui ne sont pas pris en compte dans l'émission de chacun des pays,
Exactement. Ils sont comptabilisés pour la Chine, mais pas pour les pays qui consomment ces produits. Donc les États-Unis, on voit leur position. L'accord, ou du moins la déclaration conjointe qui a été faite en novembre 2014 avec la Chine, finalement a déterminé l'approche générale des négociations depuis un an. C'est ça qui a donné un peu la marche. On part des engagements volontaires, etc. Et qu'a fait la Chine? Eh bien, elle a fait ses engagements avec les États-Unis, elle a fait une déclaration conjointe avec l'Inde, avec l'Union européenne, avec le Brésil, etc. Et très récemment, quand le président français est allé en Chine, elle a fait une déclaration avec la France. Alors, avec la France, c'était clairement avec la présidence de la COP21. Mmh. C'est ça la signification que ça avait. Et ça disait quoi? Ça disait que, pour la première fois, la Chine n'était pas contre une clause de révision. Parce qu'elle avait toujours été contre ça.
Grand progrès.
Alors bon, il faut rentrer dans les détails. Bien sûr, elle n'a pas accepté ensuite que cette clause de révision soit considérée comme à la hausse. C'est-à-dire avec des ambitions croissantes. Pour le moment, elle ne le dit pas du tout. Personnellement, je crois que si vraiment il y avait une clause de révision acceptée et effectuée par les ONG, les think tanks, les experts du GIEC, etc., forcément, ça serait quand même le projecteur braqué sur ce que font les pays avec une plus grande difficulté à être tout le temps dans le double langage et dans ce que nous avons appelé le schisme de réalité. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que tout est gagné. Voilà.
François Jemaine, ce que vient de dire Amit Dahan.
Je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de réengagement de la Chine sur le plan international, notamment dans la négociation sur le climat, qui tient à mon avis à des facteurs extérieurs. Je pense que la Chine cherche à sortir de son isolement et à s'affirmer comme une grande puissance responsable sur laquelle on peut compter, et aussi une pression intérieure très forte où la pollution de l'air qui atteint des niveaux inimaginables à Pékin ou à Shanghai est devenue un enjeu social et politique à l'intérieur du pays avec une pression de la société civile qui est de plus en plus forte. Et simplement, Xi Jinping se rend compte que là, il y a aussi une menace pour la stabilité du pays et pour l'équilibre des forces au sein du pays. Donc il y a une pression intérieure très forte. Et il va falloir compter aussi, pour continuer un peu dans la tendance positive, disons, un réengagement de deux pays qui jusqu'ici étaient tout à fait opposés à toute avancée dans les négociations internationales, c'est le Canada et l'Australie, deux pays qui ont changé de premier ministre récemment, qui étaient tous les deux gouvernés par des premiers ministres, l'un climato-sceptique, l'autre très lié au lobby du pétrole, et qui d'un coup annoncent une certaine forme de réengagement et de l'Australie et du Canada sur la scène des négociations pour le climat. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle, je dirais.
Armelle Lecomte, vous souhaitez...
Oui, tout à fait. Juste pour rebondir sur la question du Canada et de l'Australie, au sein de, voilà, des négociations climatiques, vous avez le groupe de l'Ombrelle qui réunit les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et effectivement, d'avoir deux grands pays comme l'Australie et le Canada qui viennent de voir un changement de Premier ministre peut réorienter aussi les positions de ce groupe de l'Ombrelle qui est souvent vu comme bloquant ou tirant la négociation vers le bas, vers moins d'engagement, moins d'ambition. Et ces deux nouveaux acteurs, avec Barack Obama effectivement qui arrive en fin de mandat, qui veut laisser une empreinte forte et positive, peut aider à faire évoluer les choses. Et puis, faut pas oublier que les négociations, c'est un peu comme une partie de poker géante, c'est-à-dire que les pays gardent leurs cartes pour eux très longtemps avant de vraiment dire, bon, là, il va falloir trouver un compromis. Voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. Et donc, d'avoir la Chine qui dit, nous, on est prêt à cette clause de révision, c'est un premier pas important. Et ça ne veut pas dire que sur d'autres points clés, comme les financements, on ne pourra pas aussi avoir des avancées.
Alors, autre émetteur important de gaz à effet de serre, vous en disiez quelques mots tout à l'heure, Ami Dahan, c'est l'Inde.
Oui, je crois que l'Inde, il faut en avoir conscience quand même, elle est dans une situation terrifiante, telle que elle a été diagnostiquée par exemple Amartya Sen, un grand économiste indien qui a publié l'année dernière un nouveau livre sur la situation indienne, c'est-à-dire qu'elle vit des crises sanitaires, d'éducation, de développement humain énormes. Et la racine de ce problème, ça n'a peut-être pas à voir avec le climat, mais la racine de ce problème d'échec des politiques sociales en Inde depuis des décennies, elle est liée aux structures inégalitaires en Inde, aux castes et à un certain nombre de problèmes propres à l'Inde. Et avec le gouvernement indien actuel, il faut quand même savoir que nous vivons de nouvelles années d'intolérance et de violence très grandes en Inde.
Tout cela nous éloigne un petit peu de la question climatique.
Non, pas vraiment, parce que l'Inde a une posture idéologique dans ses négociations depuis des années. Elle est tout le temps extrêmement intransigeante sur les questions d'équité et de justice climatique, revendiquant effectivement d'abord que les pays développés soient le modèle et ouvrent la voie, et d'autre part demandant beaucoup d'argent et en disant « nous avons droit au développement ». Et c'est vrai qu'ils ont droit au développement, jamais nous ne pourrons leur dire « vous ne pouvez pas vous développer ». Mais néanmoins, il faut quand même savoir que tous les investissements, tout l'argent qui sort en Inde ne sert pas au développement des pauvres. En ce moment, c'est bien ça le diagnostic que je voulais dire. Et donc, on voit bien que la question est difficile à régler. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui quelle va être la position de l'Inde concrètement dans le G77, dans la COP21. Parce que, bon, il y a eu des petites avancées, des déclarations conjointes, etc. Mais elle est quand même extrêmement dure et on n'est pas à l'abri qu'elle se braque parce que aussi, ce pays, comme un petit peu François Jemaine l'a dit différemment, mais il y a vis-à-vis des 400 millions de pauvres indiens qui n'ont pas effectivement accès à l'électricité, quelle est la politique du gouvernement et du nouveau pouvoir indien vis-à-vis de ça? C'est pas du tout clair. Et en particulier, pour les années à venir, c'est pour ça que moi je crois que un des problèmes majeurs de cette négociation, c'est de prendre conscience de l'ampleur de la transformation qu'elle présuppose. Et on va pas résoudre le problème entièrement à la COP21. Mais au moins, il faut identifier cette transformation, en parler et voir où est-ce qu'il faut jouer. Comment mobiliser les choses progressivement? Sinon, forcément, on va être extrêmement déçus. Parce que ça sera, finalement, je crois, un accord assez bas, peu ambitieux et très mou.
Alors, juste le groupe du G77 que vous évoquiez, et qui a été plusieurs fois évoqué dans l'émission, donc qui représente les pays en développement du Sud, plus la Chine, et qui comporte, comme son nom ne l'indique pas, 134 pays, des 195 participants à la COP. Un autre pays peut-être intéressant à évoquer, François Jemaine, c'est la Russie, dont l'énergie primaire repose à 50% sur le gaz.
Tout à fait. C'est-à-dire que la position de la Russie dans la négociation sur le climat ne peut pas se comprendre indépendamment du contexte international dans lequel se trouve la Russie. C'est-à-dire un contexte international jusqu'à il y a peu, jusqu'avant les attentats où la Russie était extrêmement isolée et où la Russie bloquait par principe également dans une posture tout avancée sur la négociation climat, simplement en disant, vous essayez de m'isoler sur la scène internationale, sur la question syrienne, sur la question libyenne, eh bien je m'isole aussi en représailles en quelque sorte dans les négociations climatiques. Alors, la donne a évidemment un peu changé sur le plan géopolitique depuis les attentats. On voit qu'une alliance est en train de se former peut-être à l'heure où nous parlons avec la Russie dans l'offensive contre Daesh. On va voir ce qu'il en sera et peut-être que ça infléchira la position de la Russie dans la négociation sur le climat. C'est pas gagné à ce stade.
Armelle Lecomte.
Oui, un dernier acteur dont on n'a pas parlé, et je crois que c'est assez révélateur de la réalité aujourd'hui dans les négociations, c'est l'Union européenne, qui a été tout au long de l'année aux abonnés absents dans les négociations. Et il faut le déplorer parce que l'Union européenne a bien souvent joué le rôle de passerelle entre des positions un peu polarisées, avec d'un côté les pays en développement, avec un potentiel bloquant, par exemple de l'Inde, comme l'a dit Madame Dahan, et de l'autre côté les pays riches, le groupe de l'ombrelle, États-Unis, Japon, etc., qui veulent tirer l'accord vers le bas. Et l'Union européenne a vraiment un rôle clé à jouer pour essayer de trouver des compromis sur un certain nombre de points, que ce soit vers le mécanisme de révision, que ce soit sur les financements. Et on espère vraiment que pendant la COP, l'Union européenne sera beaucoup plus présente pour essayer justement de trouver des terrains d'entente et de parvenir à un compromis qui ne sacrifie pas l'ambition.
Alors pour terminer, rassembler un petit peu les idées, si tant est qu'on puisse le faire avec le temps qui nous reste, Ami Dahan, on l'a bien compris, prise de conscience, elle est là. Maintenant, l'heure de mettre la main au portefeuille, il n'y a plus grand monde. Qu'est-ce qui peut faire le succès ou l'insuccès, voire l'échec de la conférence COP21?
Bon, on a fait le tour de quelques questions. Moi, je crois que s'il n'y a pas d'accord du tout et que ça explose comme à Copenhague, c'est relativement grave parce que une fois de plus, pour des années, on sera dans un backlash de la question du climat et on va repartir à renouer les fils et ça prend des années. Hein. Donc, je n'attends pas grand-chose, mais quand même, une explosion serait préjudiciable. Maintenant, s'il y a un accord signé par tout le monde. Il faut bien voir les limites qu'il aura et que nous avons soulignées déjà. Et la question essentielle, c'est effectivement avec la mobilisation des sociétés civiles, des ONG, de tout, comprendre que cet effort doit s'intensifier dans les années à venir et que cette gouvernance globale, elle n'est qu'un des éléments d'une gouvernance multi-échelle avec des centres différents, des coordinations différentes, des nouveaux acteurs différents à faire entrer dans le jeu pour à chaque fois traquer ce qui me paraît, moi, l'essentiel, c'est-à-dire ce schisme entre d'un côté les discours et les actes qui a lieu effectivement à la conférence internationale onusienne, mais qui a lieu aussi dans chaque gouvernement, dans chaque position, où on voit bien qu'on dit qu'on parle de transition énergétique, puis ensuite on refuse ce qui va avec la transition énergétique, ce qui est cohérent avec cette orientation.
François Gemmel, très rapidement.
Ce que j'espère, moi, c'est que la COP21 pourra engager cette transformation dont nous avons parlé. Et trop souvent, je pense qu'on est encore dans une sorte de leurre ou de chimère où on imagine que les choses vont se faire naturellement par une sorte de transition énergétique naturelle et qu'on va pouvoir ainsi éviter la catastrophe. Je pense qu'il faut d'abord réaliser que la catastrophe, elle est déjà là pour des millions de gens à travers le monde et que donc il faut essayer de voir comment on peut s'en sortir et on ne s'en sortira que par cette transformation assez radicale qui impliquera aussi des ruptures. Et donc je pense qu'il faut, pour amorcer cette transformation, commencer à imaginer une narration du monde vers lequel on veut aller. On connaît le monde que l'on veut éviter. Je pense qu'il faut pouvoir dessiner ce monde vers lequel on souhaite aller, les obstacles à franchir pour y arriver, la route pour y arriver. Et je pense que ça, c'est tout le défi au fond de la COP21. Transformer la lutte contre le changement climatique en un vrai projet politique mobilisateur, plutôt que comme une contrainte à laquelle chacun essaie d'échapper pour le moment.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Ami Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS, co-auteur avec Stéphane Écoute de Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales aux presses de Sciences Po. Armelle Lecomte, spécialiste climat et énergie, porte-parole d'Oxfam. Et François Gemmel, chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po à l'Université de Liège, en Belgique, à Versailles-Saint-Quentin et auteur de Géopolitique du climat aux éditions Armand Collin et directeur de l'enjeu mondial, l'environnement aux presses de Sciences Po. Pour aller plus loin, je signale également Politique internationale de l'environnement également presse de Sciences Po, et le hors-série d'Alternatives internationales consacré au climat et aux solutions pour sauver la planète. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.